Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai Oriental. J'ai refusé totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Vous accordez la parole, c'est la raison d'être de ces magazines que vous écoutez à l'instant sur Radio Capi, votre radio préférée. Parole aux auditeurs, c'est bien cette émission que vous aimez beaucoup. Eh bien, bienvenue donc à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices et internautes. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous accorder la parole. Et quand je parle de nous, je regarde de l'autre côté de la baie vitrée, je vois Patrick Yassongwa qui assure la mise en onde. Juste à côté de Patrick, il y a Nancy Atambo qui assure la réalisation. On n'oublie pas aussi Esther Mambote qui assure la, on va dire les lives sur les plateformes digitales. Vous nous écoutez sur notre page Facebook, vous nous écoutez ou vous nous écouterez aussi sur notre chaîne YouTube, également sur notre compte X, et on n'oublie pas aussi ceux qui nous écoutent sur le bouquet Canal Plus, sur Channel 951, et vous nous écoutez également sur DSTV, sur Channel 867. Je suis Jean-Marc Matoy qui m'offre les 10 journaux. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, le ministère du Plan, à travers l'Institut National de la Statistique et le Bureau Central du Recrutement, a lancé il y a quelques semaines le recrutement des agents pour la cartographie censitaire du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Sachez que ce deuxième recensement général intervient 42 ans après le premier. Quel bilan peut-on faire? Bilan mi-parcours sur cette phase de recrutement. Quid sur les processus de dépôt des candidatures physiques, surtout pour les zones du pays avec accès limité, difficile ou plus ou moins inexistant à Internet? C'est donc autour de cette problématique que s'articule votre magazine Parole aux auditeurs de ces jours. Nous en parlons avec Jean-Claude Kitima, qui est le responsable financier chez Caritas, RDC Caritas, qui participe également à ces processus, à cette opération. Monsieur Jean-Claude Kitima, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Jean-Marc.
Alors, n'hésitez pas déjà à nous appeler au numéro 081 32 34 883. 081 32 34 883. Faites-vous enregistrer et nous allons vous rappeler pour poser la question ou pour faire une analyse. Vous avez déjà la parole. Merci de la prendre.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Parole aux auditeurs s'épanche sur les processus des recrutements lancés dans les cadres de ces deuxièmes recensements et nous abordons ces sujets avec notre invité que j'ai présenté tout à l'heure. Je vais le faire encore. Il s'appelle Jean-Claude Kitima. Il est responsable financier chez Caritas. Alors, monsieur Jean-Claude, parlons d'abord de l'apport de Caritas dans ces processus.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Dans les processus de recrutement des cartographes, comme vous le savez, la Caritas Congo a un protocole de collaboration avec UNFPA pour faciliter, bien évidemment, la collecte des dossiers physiques dans l'ensemble du pays, dans les 145 territoires. Comme vous le savez, Caritas, c'est un grand réseau qui couvre l'ensemble du pays avec 48 bureaux diocésains, avec plus ou moins 1500 bureaux paroissiaux, et 10 000 cellules communautaires des bases. Avec cette capillarité, Caritas va aider les ministères dans la collecte des dossiers physiques de candidature et jusqu'à les acheminer aux chefs-lieux des provinces où les bureaux des BCR et INS vont faire les analyses et pour déterminer les candidatures retenues. Voilà l'apport de Caritas dans ce processus de recrutement des cartographes dans l'ensemble du pays. Brièvement, Caritas sera installé ou existe déjà dans les 145 territoires. Et son rôle principal sera de collecter les dossiers physiques et centraliser les dossiers physiques des candidatures dans les milieux reculés, parce qu'il faut le savoir que le BCR aura d'autres partenaires pour recruter et collecter les dossiers dans les périphériques. et Caritas va s'en charger pour centraliser au niveau territorial et acheminer ces dossiers vers la province où les analyses seront faites. Voilà brièvement l'apport de Caritas dans ce processus. Il faut préciser ici que Caritas existe déjà, donc elle est présente dans tous ces territoires au vu de la capillarité que je venais de présenter. Donc son apport ne demandera pas le temps d'installation. C'est aussitôt que les activités seront lancées, Caritas sera à pied d'œuvre pour apporter son appui.
Alors quel est le profil recherché justement dans le cadre de ces recrutements?
Dans le cadre de ces recrutements, le profil est défini par les ministères, par les baisseurs. Et à notre niveau, nous savons qu'il faut d'abord être congolais, ça c'est sûr. On ne peut pas être agent cartographe si on n'est pas congolais. Et les critères âge aussi comptent. Vous devez être entre 18 et 55 ans. Le profil des niveaux d'études, c'est le minimum bac plus 3. Mais comme c'est un recensement digitalisé avec des appareils, la maîtrise de l'outil numérique s'avère importante.
Ok.
Ça, c'est globalement les critères clés, mais il y a plusieurs critères. L'expérience dans les anciennes cartographies, et une bonne communication. Vous savez que la cartographie va se faire dans les milieux reculés. Et la communication doit être bonne, c'est la raison pour laquelle il faut être du coin pour être cartographe, parce que cette communication peut se faire même en langue locale. Donc on ne recrute pas un cartographe qui n'est pas de la région. Il faut préciser aussi que la Caritas ne s'occupera pas des chefs-lieux des provinces. Son appui est plus centré sur les territoires, les 145, parce que vous savez déjà qu'au niveau des chefs-lieux, il y a un accès facile à l'Internet et il y a deux modes de recrutement, en ligne et physique, et tous ceux qui sont dans les chefs-lieux.
Mais vous allez beaucoup plus vous pencher sur les recrutements, sur les physiques.
Moi, physique, dans les milieux reculés.
Ok.
Voilà, globalement, les profils demandés par rapport à ces recrutements.
Mais il y a des gens qui restent un peu dubitatifs. Il y en a qui hésitent, qui se disent que est-ce que ces recensements aura finalement lieu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, à ce stade, nous sommes dans les recrutements des cartographes. Nous osons croire que les recensements, c'est l'affaire du gouvernement. Il aura bel et bien lieu parce que nous allons nous limiter à appuyer l'UNFPA.
Voilà, il y a déjà les standards qui sifflent là-bas, donc il y a déjà des auditeurs qui veulent prendre la parole. Monsieur Jean-Claude, on vous garde encore avec nous dans ces studios. Nous allons écouter le premier auditeur. Ça fait longtemps que j'ai entendu sa voix sur nos antennes. Maître Patrick Odia, vous nous appelez depuis Lubumbashi. Bonjour et très heureux de vous retrouver sur les antennes de notre radio. Vous avez la parole, bonjour.
Bonjour, chef. C'est Mathieu qui dit Lélé. Ça faisait longtemps. Bonjour à l'invité également du jour. Je précise que je suis à Kisangani.
Ah, une mission de service. Singamwambi. Ok.
Ah, merci de m'apprécier ce niveau du débat. Je pense que l'invité était prudent de répondre que les recensements, l'information ou la convocation du recensement relève des attributions du gouvernement et que les Caritas, je pense, les Caritas intervient un outil technique en collaboration avec par la demande de FPA et donc qui a un contrat avec de l'autre côté également. C'est ce qui est bien. Donc, moi je pense.
Oui, Maître Patrick, vous êtes toujours là? Des petits soucis avec la ligne de Maître Patrick. Est-ce qu'il est là? Maître, est-ce possible de réactiver votre micro?
Je suis là. J'ai remarqué que je suis là.
C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, on continue.
Ah, ok. Je disais tantôt que l'invité était prudent de laisser la confirmation de la convocation du recensement à la seule initiative du gouvernement. Toujours est-il que jusqu'à présent, le gouvernement a émis le vœu de pouvoir organiser ou convoquer ce recensement. C'est ainsi que ce processus a été lancé. Il faut rappeler que les recensements, c'est pas une activité brisque. Il faut une préparation et cette préparation englobe également le recrutement des agents et tout ce qui va avec. Et je suis moins convaincu qu'il y en aura également. Mais cela n'exclut pas également au regard des autres examens ou au regard des autres exemples que nous avons vécus, où le gouvernement a lancé les processus, mais pour ne pas aboutir. À l'occurrence, le permis, ça a été annulé, notamment également le recensement de la carte d'identité, ça a été fait également plusieurs fois, même le chef de l'État a dit. Ça sont des observations politiques, mais ici, je voudrais revenir plus sur l'aspect un peu technique du recrutement. Monsieur l'invité, moi qui vous parle, je suis un ancien agent, je vais dire territorial, formateur, de la CENI. Si bien que ce sont des domaines différents, mais ça concourt toujours à une même mission également. Je sais de quoi je parle. Lorsque vous dites, lorsque M. Jean-Marc vous pose la question concernant, je vais dire, je ne sais pas s'il vous a posé la question, à moins que je m'aille compliqué, que je me sois compliqué également, sur la neutralité du recrutement également. Ne voyez-vous pas qu'il y a des forces extérieures, notamment par recommandation politique, soit du gouverneur, soit de ceci, soit de Monseigneur Otemi, soit de Monseigneur tel, soit de quelque chose. Parce que dès lors que nous savons que les Caritas, c'est la, je vais dire, fille maison ou fils maison de l'Église catholique, et dans les contextes actuels, ça pose un problème de confiance et de collaboration. Ne voyez-vous pas que sur le plan des collaborations, il y aurait une difficulté enfin de se faire confiance également? Ça, c'est une question que je m'interroge, si vous pouvez nous éclairer. Deuxième observation également, vous avez dit que parmi les critères, il faut être autochtone. Et vous avez dit parce qu'il faudrait communiquer avec la population locale. Vous pensez que le fait de parler une langue locale, ça fait d'une personne autochtone de ce village, de ces territoires? Est-ce que ces critères-là sont probants? Moi, je pense qu'il faudrait pas dire qu'il faut être autochtone, mais peut-être il faut parler la langue locale pour faciliter la communication. Mais dire qu'autochtone, c'est celui qui parlerait la langue locale, je pense qu'il y a contraste, à moins que je me trompe, vous pouvez nous éclairer également. Troisième observation avant que je cite, par exemple, c'est un rapport avec Lucie. Moi, je voudrais me réserver de vous dire que vous n'allez pas le faire bien ou vous n'allez pas. J'attendrai les résultats. On va voir comment vous allez organiser avec cette transparence. Nous avons connu les Caritas autrefois, qui étaient très exigeants, très stricts. Est-ce que cette fois-ci, Caritas aujourd'hui reste le même? C'est autour de ces questions que moi je me pose. C'est à vous de nous montrer que ce processus de recrutement physique sera transparent et qu'il n'y aura pas de recommandations ecclésiastiques catholiques, ecclésiastiques de Cinco, c'est pas moi, ou qu'il y aura également d'autres forces politiques du gouvernement ou internationales, parce qu'il faut se les dire également avec les FPI et les autres, je vais dire les FIN et les autres également. Voilà un peu. En y allant par une prudence que je voudrais dire ici que le gouvernement a déjà convoqué, mais d'autant plus qu'on a déjà lancé des processus, ça veut dire que c'est déjà en cours, mais je me réserve par rapport à certains caractères, notamment la transparence dans les recrutements, l'influence et la recommandation de l'Église catholique et tout ce qui va avec, au regard de votre relation ou de votre naissance administrative issue de l'Église catholique, avec les rapports du gouvernement. C'est autant de ces réflexions que peut-être on peut réfléchir, vous pouvez nous éclairer sous votre contrôle également. Là, je vous dis merci Jean-Marc de m'associer.
Merci beaucoup Maître Patrick Odia, vous nous appelez depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. On va quitter Kisangani, cette fois-ci nous allons prendre la direction de Likasi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga où nous attend Ornicard Banza. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Jean-Marc, merci pour la parole. Bonjour aussi à notre invité. Monsieur Jean-Marc, je crois que particulièrement, Maître Odia a presque balayé ce que je voulais dire concrètement, mais cela ne pourra pas m'empêcher aussi d'aborder dans un autre sens.
Oui, il faut en profiter.
Parce que le ministère du Plan est en train de parler de la cartographie. Alors je voulais savoir avec plus de précision, par rapport, si notre invité peut nous éclairer aussi, est-ce que la cartographie qui était faite par la CENI est-elle différente de celle que ce ministère doit faire ou c'est ce qu'ils veulent faire actuellement? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je me dis, parce que la CENI avait déjà travaillé sur cet aspect des choses, pour raccourcir encore les choses, est-ce qu'on ne pourrait pas associer à cette activité ou à ces activités les agents de la CENI, dont Maître Odia qui venait d'intervenir ici parce qu'il a dit qu'il avait déjà travaillé à la CENI. Et dans cet aspect des choses, ça peut faciliter les activités. Je pourrais aussi aller très loin. Vous vous rappelez dans le régime passé, fait le recensement, ce qui est trop important, mais ça divisé autour des aspects politiques par le fait que certains estimaient que une activité de recensement pourrait faire à ce que nous annulions nécessairement les élections, ce qui pouvait poser problème. Alors je me dis, est-ce qu'on ne peut pas associer la CENI à ces activités pour permettre à ce que ça soit non seulement rapide, mais que ce soit facile, parce que la CENI avait déjà travaillé sur la cartographie. C'est un peu ça ce que je pouvais aussi demander. Merci.
Merci beaucoup, Ornicard Banza. Nous restons dans la province du Haut-Katanga, mais on va prendre la route en quittant Likasi pour arriver à Lubumbashi, où nous attend Pierre Moujanaï. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Jean-Marc Mataki, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent.
Vous gardez la parole.
Pardon?
J'ai dit vous gardez la parole. Oui, allez-y.
Merci beaucoup. Je salue l'initiative du gouvernement d'organiser enfin le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. 42 ans après le premier, cependant, le recrutement des agents suscite un peu d'inquiétude et d'interrogation. La première question que je me pose, comment le bureau central du recrutement ou du recensement garantit-il l'égalité des chances entre les candidats des grandes villes qui disposent d'Internet et ceux des territoires enclavés où la connexion est inexistante ou très instable afin que cette phase de recrutement ne soit pas elle-même en source d'exclusion. La deuxième question, je voulais demander à notre invité quelles mesures concrètes de contrôle et d'audit ont été mises en place pour garantir un recrutement fondé exclusivement sur le mérite en évitant toute forme de favoritisme, d'interférence politique ou de corruption, sachant que cette étape conditionne la crédibilité de tous les recensements. Et enfin, la troisième question, vous le savez très bien, avec les gens qui ont travaillé récemment avec la CENI, il y avait toujours beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de ramener ces gens-là qui avaient travaillé avec la CENI, que la Caritas puisse travailler aussi en collaboration avec la CENI pour récupérer tant soit peu ceux qui ont travaillé avec la CENI et aussi le salaire de ces gens-là. Vous savez, à l'RDC, il y a toujours des histoires qui découragent. Est-ce qu'ils ont déjà pris toutes les mesures possibles pour ne pas léser ceux qui auront comme travail ou soit ceux qui vont gagner au recrutement, ceux qui seront engagés? Est-ce que toutes les mesures possibles sont-elles déjà prises ou bien on va encore rester dans les coques pour dire on attend après 2 mois, après 3 mois, nous serons payés, et ainsi de suite? Ce sont là les questions, les interrogations que je me posais.
Merci beaucoup Pierre pour vos questions. L'invité là, il va répondre tout à l'heure. Il est temps pour nous de nous rendre au Congo central pour écouter Victor Ndouzi. Victor, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci beaucoup pour cette confiance en moi. Bonjour aussi à tous les auditeurs. Alors, en fait, j'ai quelques préoccupations.
Oui, allez-y.
Caritas, moi je suis au Congo central. Je suis même dans la mission catholique Nkolo, à 50 km de Bantamongo. Je me demande, j'ai essayé de me renseigner pour Matadi. Caritas, tout est centralisé à Kinshasa ou bien comment? Parce que concrètement, nous n'avons aucun écho de Caritas Matadi à ce qui concerne ces recrutements ici, chez nous. Et je venais de demander aussi avec les amis qui sont en Banzangongo, en tout cas, il n'y a pas d'écho. Alors, je ne sais pas, Caritas est à quel niveau et quel est son programme, le chronogramme, j'allais dire, à travers le Congo. Je suis un peu inquiet aussi, parce que Caritas s'engage aujourd'hui, mais Caritas sait quel genre de difficultés il a pour le salaire des enseignants, surtout, ou parfois. Et ils ont des problèmes parce que on prétend, les gens disent que c'est eux qui ne payent pas, alors que eux ils disent nous n'avons pas reçu l'argent de l'État et tout ça. Est-ce que cette fois-ci les accords sont bien signés pour que Caritas fasse mieux son travail au lieu d'avoir le déboire que Caritas a parfois dans le milieu où il paye les enseignants? Et ça, ça me renvoie au financement de cette opération de manière générale, parce que on parlait, les directeurs de l'ONIP parlaient dernièrement de ne pas disposer d'assez de moyens et qu'il attendait même le collectif budgétaire. Et les collectifs budgétaires, je crois qu'on vient de voter. Ce n'est pas la question à Caritas, mais c'est une question générale. Est-ce que maintenant, avec le collectif budgétaire, on a donné assez d'argent à l'ONIP, ou bien on compte seulement sur les 200 millions qu'a promis la Banque mondiale pour cette activité? C'est une question générale, hein, ça. Je crois que Caritas est concerné aussi, parce que s'il n'y a pas assez d'argent, Caritas aura des problèmes pour travailler. Et enfin, peut-être l'avant-dernière question. Il y a l'ONIP, il y a CENI, il y a l'Institut national de statistiques dans cette opération. Je me demande comment est-ce que cette opération vraiment sera gérée. Et il faut ajouter le FNUAP et le bailleur comme la Banque mondiale.
Il y a les bureaux centraux du
comment
recensement.
Comment l'opération aussi. S'il vous plaît.
Oui, j'ai dit il y a les bureaux centraux du recensement aussi.
Oui, les bureaux centraux. Donc, c'est tellement, il y a pléthore d'institutions et au risque que si chacune d'institution doit influencer, enfin, doit agir, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est vraiment un problème, surtout quand on sait que l'ONIP recrute les gens et il en a recruté pour la carte d'électeur, enfin, la carte d'identité. Hein. Et je crois que l'unique carte qu'on a donnée, c'est au président de la République. Et après, on nous dira que il y a l'organe de M. Alenghetti, comment on s'appelle encore,
IGF,
qui est intervenu. L'IGF qui est intervenu parce que il y a eu tricherie ou dans la passation de marché ou bien les autres ont surfacturé. Alors moi, je me demande si vraiment, excusez-moi, j'ai dit, mais j'ai des doutes sur comment on recrute, comment se font le contrat. Et si on a été incapable pendant 3 ans, le président a envoyé la carte le 30 juin 2023. Après, le contrat avec cette entreprise-là a été annulé, il y a eu des surcharges et tout ça. Je me demande, vraiment Jean-Marc, je me demande qu'est-ce qui va se passer concrètement. Qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup.
Merci Victor Mzouzi. Nous saluons tous les auditeurs qui nous écoutent justement dans tout autour de la mission catholique Nkolo là-bas où vous êtes. Alors on prend cette fois-ci Blaise Saïdi. Blaise, bonjour.
Bonjour cher Dijano.
Vous avez déjà la parole, vous pouvez la garder.
Oui, merci beaucoup. Je salue l'invité. Je salue aussi la pertinence des interventions de mes prédécesseurs. Monsieur Dijano, il y a quand même des préoccupations majeures qui demeurent, que je vais demander à l'invité, puisqu'il en a déjà assez, puisque c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Ici, le problème des recensements, il y a d'abord une préoccupation très pertinente, la sensibilisation. Il n'y a même pas les panneaux publicitaires pour cette situation de recensement. Cher Dijano, je vais demander à l'invité quelles mesures faut-il prendre pour éviter le favoritisme, la corruption ou les irrégularités dans le recrutement des agents. Et surtout, que risque la RDC si ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat ne répond pas aux exigences de transparence, de crédibilité et de fiabilité? Les réponses à ces questions détermineront la confiance de la population et la réussite de cette opération nationale essentielle au développement de notre cher beau pays, cher Dijano. Je vais donner ma contribution pour cette thématique. Les autorités doivent répondre à ces deux préoccupations. Je dirais même 3, y compris la sensibilisation. Par des actes concrets, elles doivent mettre en place des mécanismes de contrôle indépendants pour prévenir le favoritisme, la corruption, tout en garantissant une sélection fondée uniquement sur le mérite. À défaut, le pays s'exposerait à un recensement contesté, à des données peu fiables et à une planification du développement basée sur des statistiques erronées, avec conséquences négatives pour les politiques publiques et le bien-être de la population. Cher Dijano, je laisse place à d'autres personnes de continuer la thématique.
Merci beaucoup, cher Blaise Saïdi. Nous allons nous rendre cette fois-ci en Mbujimayi pour écouter Évariste Kabemba. Bonjour Évariste, et si vous pouvez déjà activer votre micro, bienvenue.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous mes auditeurs qui se sont déjà exprimés et à tout le monde qui va s'exprimer après moi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole, bien évidemment. Je suis en Mbujimayi au Kasaï oriental. Oui, est-ce que, cher journaliste, oui, avec ce qui se passe au pays momentanément, est-ce que le moment est propice d'organiser les recensements? Et les recensements même là, voire remplacer l'enrôlement de la CEI ou bien ça va faire comment? Mes excuses, hein, de plusieurs priorités que je suis en train de...
Allez-y, papa, là. C'est la raison d'être de cette émission. Prenez la parole, papa. Vous avez la parole.
Donc, très bien, merci. Les élections en 2028. Reste bon. Comme l'année 2028 est en train de s'écouler, j'ai l'impression qu'il reste seulement une année de 2027. On va s'intéresser à l'organisation des élections ou bien on va s'intéresser au recensement. Jusque là, on n'a pas encore eu la date bizarre des recensements en question. Et concernant les recrutements, je vais demander à toutes les autorités. Lors des recrutements, il faut faire quand même des fois des mesures. Même s'il peut y avoir des propositions ou des recommandations, vous devez quand même tenir compte de ceux qui n'ont pas quand même la chance de trouver les gens qui peuvent les recommander dans une entreprise X ou Y, de trouver aussi la chance ou l'opportunité. Vous voyez ce que ça fait ici. Lorsque les recrutements de l'armée se déroulent, là, c'est tout le monde qui est saisi du message. Et ce sont les enfants du pauvre qui sont vraiment intéressés de ça. Mais lorsqu'il y a le recrutement peut-être de la DGDA, de l'OPP, ça se passe sous coulisses. Ça se passe sous coulisses. Et comme le recensement pointe à l'horizon, malgré que je ne maîtrise pas la date de l'histoire en question, je vais demander... On facilite quand même tout le monde. On en a marre de recommander des recommandations et tout contre là. Dans un contexte XY, ça peut intervenir, mais il faut aussi laisser quand même la place à certains Congolais qui n'ont pas de parasols. Parce que ici, avec moi, je constate avec amertume, pour avoir un poste comme ça, il faut être un recommandé d'une autorité quelconque. Je vais demander à toutes les autorités, c'est une demande, hein. Il ne faut pas voir ça comme si c'était une imposition. Bon, vous pouvez recommander qu'à cela ne tienne, mais il faut laisser quand même la place aux autres. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Évariste, pour vos questions. On quitte Mbujimayi ou Balengela dans le Kasaï oriental pour rentrer à Kinshasa, où nous allons accorder la parole à Elvis Kowoya. Elvis, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité.
Alors, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup, parce que je voulais d'abord, cette question, c'est une question qui a été déjà posée. Je pense que dans la troisième législative, en 2018, je pense qu'il y a l'un des auditeurs qui a aussi évoqué ces cas. En 2016, on a dit évoquer cette question du recensement. Mais l'opposition, à son époque, avait contredit parce qu'il disait que si on passait à ce recensement, ça devait nous coûter 2 ou 3 ans. Mais pendant 2018 jusqu'à 2024, jusqu'à 2026 aujourd'hui, maintenant c'est aujourd'hui où on évoque les problèmes du recensement. Ça revient à quel niveau? Le ministère du plan, quel mécanisme a-t-il pris maintenant? Parce que j'ai compris que votre invité aussi a dit, voulu parler des problèmes du recensement électronique. C'est là pour nous expliquer que nos frères qui sont là-bas à Goma, à Bukom, pourront les faire par les moyens électroniques. Voilà.
Oui, allez-y.
Par les moyens électroniques. Voilà comment, et nous savons comment les choses se font dans notre pays. Hein? Surtout avec l'électronique. Nous avons eu des informations ici en 2023. ou à 2018, on a dit que même les machines qui devaient être les machines de la CENI pour les votes, on disait que ces machines ont été même corrompues, ont été même réorganisées pour donner des résultats contraires à ce qui s'est passé. Alors, quelle est la crainte que nous avons ou quelle est la crainte que j'ai? La crainte que j'ai peut-être pour voir que pourquoi cette question doit susciter de l'intérêt à cette période où nous sommes en guerre, où une grande partie de notre pays est occupée. Parce que la lire où les choses se vont. La semaine passée, on nous a donné comment on recrute déjà. Nous sommes maintenant en train de parler à quel niveau nous avons avec le recrutement. Vous voyez un peu que, au lieu d'abord de se baser sur les cas que nous avons, par exemple, parce que les réseaux qui tiennent, quoi, qu'ils vont passer à Goma et à Bukavu, ils ne feront pas les moyens électroniques. Et si on arrive, peut-être qu'on veut se servir de la cartographie de la CENI, nous savons qu'à chaque législative, après l'autre, il faut qu'il y ait encore une équipe de la CENI. Parce qu'on peut directement dire que la CENI de 2023, il faut qu'on réorganise encore la CENI. Vous voyez un peu ça. Alors, pour avoir la cartographie, travaille aussi avec la comme maintenant on cible la qualité, c'est directement. Nous savons la qualité du service qui est la qualité, c'est rare. Parce que dans beaucoup de provinces, surtout que chez nous, en province, comme au Sankourou, c'est la qualité, ce qui s'en charge de tout, du paiement, tout ça. Alors, maintenant, la tâche qu'on veut maintenant, donc, parce que nous savons que, je ne peux pas dire que nous sommes dans un gouvernement de tatou RR ou peut-être des CRR, mais la tâche qu'on veut maintenant à taxer à la Caritas, est-ce que la Caritas sera-t-il à mesure? Parce que nous voyons peut-être la ligne que les choses vont. Parce que maintenant, si vous attendez avec moi, au moins d'un mois ici, on a eu presque trois émissions, peut-être sur une même question du recensement. Alors que nous savons que ces recensements pourront se faire dans l'étendue des provinces. Nous savons, Ituri, là-bas, il y a la maladie Ebola. C'est difficile qu'on puisse recenser les gens. Mais la lire où les choses vont, c'est même pour aller, pour conditionner d'autres échéances qui se pointent à l'horizon. Voilà la crainte que moi j'ai. Mais en 2023, en 2018, en 2016, on a décrié. Alors que c'était une opération sanitaire. Aujourd'hui, tout le monde se met d'accord. Toutes les sociétés civiles qui criaient en 2016 et qui refusaient qu'on puisse avoir un recensement, c'est aujourd'hui tout le monde est d'accord, tout le monde est cuit. On entend seulement qu'il faut que cette opération doit se faire. Alors ça veut dire qu'à cet âge-là, l'ancien gouvernement voulait nous duper. Aujourd'hui, maintenant, c'est la réalité. Alors avec tout ce que nous avons, avec l'avancement des rebelles, avec ce qui s'est fait au niveau de l'Ituri, tout ça, la maladie, l'insécurité, et ici, c'est que nous vivons. Voilà un peu ce que je voulais contribuer. Mais que la qualité s'assume, hein. Si maintenant que la guerre aussi entre dans la danse, ça va qu'il s'assume et que les résultats que nous aurons, nous avons que nos yeux pour plaire.
Voilà, merci. Bon, on a aussi les oreilles pour écouter. Merci beaucoup, Elvis Koya. Alors, Franck, vous nous appelez depuis Vienne. Bienvenue à ces débats. Franck, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour sur studio, bonjour en invité et à tous les amis qui se sont déjà exprimés.
Ça fait plaisir de vous écouter.
Je vous en prie, merci beaucoup. Le plaisir est partagé de vous suivre également. Oui, je suis en train de vous suivre depuis le début. Je pense personnellement que tout est lié à la bonne volonté qui doit régir l'essentiel de ce que nous voulons dans ce pays-là. Parce que la Caritas, c'est juste une structure d'appui qui gère au secours par rapport à certaines réalités là où l'État, un État qui est vraiment responsable, ne sait pas arriver. Mais seulement si l'État, qui doit être présent partout, est dans l'impossibilité de se retrouver là où il est, il devait être, et qu'il doit recourir à des structures d'appui comme la Caritas, c'est un État de pourvoir aux moyens pour que ce devoir puisse être accompli. Mais dans la mesure où nous savons un peu la mentalité, la philosophie des gestion de chez nous, parfois on cherche, on sait d'avance que c'est difficile, mais on va se cacher derrière les structures d'appui, là où on n'a pas donné, on n'a pas accordé les subventions nécessaires. Ceux qui doivent se décider vont dire non, on a donné les moyens, mais la Caritas n'a pas été en mesure de s'exécuter. Et c'est là où moi, personnellement, comme prêtre catholique, je peux prodiguer des conseils à l'invité qu'il se montre aussi très, très prudent. Parce que nous sommes en train de traverser des moments de turbulence où la crédibilité même de l'Église catholique risque d'être en danger. Alors, dans la mesure où la Caritas se disponibilise pour faciliter à l'État congolais de telles tâches, Il faut que la Caritas se montre aussi réaliste et exigeante pour demander le nécessaire. Parce que dans un État comme la RDC, il y a des coins où il faut parfois avoir des avions que la Caritas n'a pas. Il faut avoir des hélicoptères que la Caritas n'a pas. Alors je crois que c'est le moment d'exiger trop de clarté et aussi de se montrer réaliste. Bon, par rapport à certaines préoccupations, il y a un confrère qui a dit que dans les Bas-Congo, il ne voit pas la Caritas. Je peux seulement lui dire que la Caritas est représentée au moins dans chaque diocèse. Donc, dans chaque diocèse, il y a des structures dans l'organigramme des services diocésains. Il y a un service qui s'occupe de la Caritas. Il y a au niveau de chaque diocèse, il y en a. Mais peut-être seulement chez nous, on ne sait pas mettre des écrits en grand caractère partout, mais il y a au moins dans chaque diocèse un directeur qui s'occupe de la Caritas. Et je trouve, tel que je sais comment ça fonctionne dans l'Église catholique, ça passerait par celui-là, et c'est à celui-là maintenant de pouvoir aussi savoir avec qui il va collaborer. Je crois m'arrêter là pour laisser la place.
Voilà, vous avez justement laissé la place à Mosengo Aristide qui nous appelle depuis Mahagi. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est avec lui que nous allons clôturer ce premier tour qui nous a amené un peu dans plusieurs villes du pays. Monsieur Mosengo, bienvenue, vous avez la parole. Bonjour. L'invité vous écoute.
Merci pour la parole accordée. Merci pour la thématique du jour. En tout cas, c'est une très très bonne thématique. Mais le souci est que dans cette affaire, il y a beaucoup de partenaires. On parle de Caritas, on parle de statistiques, on parle. Et nous avons vécu beaucoup de choses. Dans les années passées, c'était la CENI. Avec la CENI, c'était aussi chaotique. Surtout quand on prend la partie des recrutements. On fait bien les recrutements. Mais juste arrivé pendant le moment de l'exécution, vous allez voir, ce ne sont pas les gens qui étaient recrutés qui font descendre sur terre. Il y a la choriste. Vous allez voir les cousins des gens qui travaillent au niveau des bureaux, les tantes, les sœurs, les quoi. Alors, maintenant, quel mécanisme vous allez mettre en place pour contrecarrer tous ces systèmes-là, pour éviter toutes ces situations qu'on avait vécues dans le passé? Et avec les gens, quand on parle encore des Caritas, est-ce que ces Caritas-là, comment on doit les orienter pour éviter tous ces déraillements qu'on avait vécu avec et d'adorer les procédures qui étaient? Quand je vous parle, moi j'ai travaillé avec Caritas dans les projets de la distribution des moustiquaires. On avait envoyé l'argent, il avait l'argent, mais de payer les gens, de payer les travailleurs, c'était devenu un sérieux problème. Alors maintenant, pour éviter aussi des problèmes comme ça, quel mécanisme aussi vous allez mettre en place pour mettre chacun dans son droit? Parce que les gens qui vont travailler, les gens qui vont exécuter ce boulot, ils verront leur compte à rentrer. La Caritas ou soit l'INSS ou l'Institut National de la Statistique doivent faire quelque chose pour ces gens-là. Alors, pour éviter tous ces soucis-là, tous ces problèmes-là, il faut un mécanisme vraiment bien organisé pour contrecarrer tous ces systèmes-là. Merci pour la parole.
Merci beaucoup. Merci, cher Mosengo. Voilà, Mosengo Aristide, c'est donc avec vous que nous allons accorder la parole cette fois-ci à l'invité qui a pris note, hein, en tout cas beaucoup de pages, il a noté toutes vos questions. Monsieur Jean-Claude Kitima, la parole vous revient.
Merci, monsieur Jean-Marc. Merci à tous les auditeurs. J'ose croire qu'il y a des questions qui se sont répétées. Et en donnant certaines réponses, je pourrais prendre les questions de tout le monde. Je commence par Maître Patrick. Je voudrais préciser que la Caritas ne recrute pas. La Caritas est un partenaire de l'UNFPA pour faciliter la réception des candidatures dans les milieux reculés, plus précisément dans les chefs-lieux des territoires. La Caritas s'occupera d'acheminer ces dossiers aux chefs-lieux des provinces où les bureaux des BSR-INES vont faire le recrutement. Ça veut dire que dès la question de neutralité, dès la question des procédures, il faut comprendre que la Caritas c'est un support, comme l'a dit l'un des
auditeurs.
C'est un support de l'UNFPA, bien évidemment, pour ce monitoring-là, pour aider à à collecter ces différents documents et à les amener à qui des droits qui va faire l'analyse. Ça veut dire que de la question des recommandations, de la question des neutralités, je ne vois pas en quoi Caritas peut être interférer, d'autant plus qu'il ne recrutera pas. La Caritas va faire cette logistique de réceptionner et d'acheminer à celui qui va recruter. Voilà, globalement, par rapport à cette question, et j'ai vu beaucoup de gens sont revenus là-dessus. La question des critères, les critères, ce n'est pas la Caritas qui les définit. Les critères sont définis par les BSR, par les ministères, et la Caritas n'a fait que dire ce qui a été défini comme critère. L'autochtone qu'on a parlé, ce n'est pas l'autochtone de vivre dans les milliers. Ça veut dire que les recrutements se font au niveau local. Je donne un exemple. Vous ne pouvez pas être recruté cartographe au niveau des Matadi et vous vivez à Kinshasa. Parce que j'ose croire que l'activité ne prévoit pas les frais des déploiements pour que vous alliez travailler là-bas. On préfère bien que ce soit une population locale qui soit impliquée dans ces processus de recrutement.
On recrute sur place.
Sur place. Voilà pourquoi il y aura des bureaux même dans les milieux reculés. J'ai dit bien qu'il y aura des bureaux de réception des candidatures dans les milieux les plus reculés et tous ces dossiers vont être acheminés au niveau du chef de territoire et c'est à ce moment-là que la Caritas prendra relève pour prendre tous les dossiers et les amener au niveau de la province, du chef de la province où les analyses seront faites. Donc, il faut que les gens se sentent à l'aise et la Caritas n'est pas un agent de recrutement pour dire que quels sont les mécanismes. Les mécanismes de contrôle, les mécanismes de suivi ne sont pas à son apanage. Il y a les auditeurs qui ont dit s'il fallait recourir
à la CENI.
Bon, ça ce n'est pas à l'apanage de la Caritas pour dire qui on peut recourir à la CENI ou pas. Mais tout ce que je peux dire, nous encourageons tous ces cartographes-là qui ont l'expérience, parce qu'on a dit dans les critères quelqu'un qui avait déjà fait des cartographies dans l'ancien temps. Nous les encourageons à postuler.
Donc l'expérience est requise.
Requise, parce qu'ils ont fait ça. Et voilà pourquoi même il y a de cela 2 ou 3, 4 ans, il y a eu des recrutements de cartographes par la BSECO. Les procédures encouragent que c'est là aussi postulent encore parce que pour montrer leur disponibilité. Et on dit qu'il faut qu'ils précisent dans les documents que j'ai été retenu par la liste définitive de la BSECO pour les mêmes activités en 2015 ou 2016. Ils préciseront ça dans leurs documents pour faciliter à ceux qui vont recruter pour savoir que celui-ci est déjà passé dans les processus. Garantir la chance à tout le monde, c'est déjà ça. Quand on amène au fin fond du pays, ça veut dire qu'on veut garantir la chance à tout le monde de participer dans la cartographie. Il est important de participer, mais il faut veiller sur les critères aussi. Parce qu'il faut participer pour... Il ne faut pas participer pour participer. Il faut se dire d'abord que, est-ce que je suis éligible à faire la cartographie au regard des critères qui ont été donnés. Et dès que vous vous sentez éligible, je pense que les mesures sont prises pour que tout le monde dépose sa candidature et au moment venu, ceux qui sont chargés d'analyse et sélection feront la sélection. Les mesures d'audit, ça je laisse parce qu'il y a un auditeur qui a demandé à partir de l'ICASI, est-ce qu'il y a les mesures d'audit de contrôle de ce processus? Ce n'est pas la mission de Caritas. Ici, je vois et puis quelqu'un a dit que la Caritas est à Kinshasa, Caritas est en train de centraliser, ça c'est notre ami du Congo central. C'est un processus. Quelqu'un l'a dit, c'est un processus. Nous sommes dans l'étape de la contractualisation avec UNFPA qui est finie. Et nous sommes là dans les préparatifs logistiques pour que nos entités décentralisées que j'ai présentées, la capillarité de la Caritas, nos 48 bureaux soient informés des processus de travail qu'ils vont faire et mettre en place nos agents recenseurs. Je dis, nous aurons 2 recenseurs au niveau de chaque... des réceptionnistes au niveau de chaque chef-lieu du territoire, et également avec un chef d'équipe pour les comptes de Caritas, nous nous limitons au chef-lieu du territoire. Et c'est à partir de là que nous allons récolter et les différents documents qui viendront dans les milieux les plus reculés avec d'autres partenaires des BSR pour que nous puissions acheminer au chef-lieu des provinces. Les déboires, les mesures par rapport aux déboires qu'a la Caritas par rapport aux paies des enseignants, nous n'allons pas payer les gens. Nous allons utiliser nos ressources. J'ai dit que nous avons au moins dans cette capillarité que j'ai dit, la Caritas existe. Ça veut dire qu'elle ne va pas s'installer à cause des réceptions de candidatures. Nous avons déjà au moins 10 000 cellules communautaires en termes de ressources.
On parle aussi de la sensibilisation.
Nous avons au-delà des 23 000 agents dans les réseaux. Donc ce sont ces agents qui seront mis à profil pour réceptionner les candidatures. Les moyens par rapport à ce que nous allons faire vont provenir de l'UNFPA, bien évidemment, selon notre protocole de collaboration. Et pour le reste des processus, nous nous réservons...
Est-ce que les gens sont sensibilisés? Parce que la question de la sensibilisation est revenue plusieurs fois.
Si on nous la remet dans notre protocole, on nous remet les rôles de sensibilisation, vous êtes sans ignorer que quelqu'un l'a dit, nous sommes un instrument de l'Église catholique pour la pastorale des pauvres et que nous avons une capillarité nationale. Ça serait la moindre des choses. Nous allons sensibiliser par notre réseau de communication et j'espère que tout le pays sera informé du processus à une seule condition, si cette mission nous est donnée. Mais pour l'instant, nous avons une seule responsabilité, d'ouvrir les bureaux de réception des candidatures au niveau de chef-lieu des 145 territoires et de les acheminer au niveau de ville.
Mais la question, oui, allez-y.
La question de donner la chance aux gens qui n'ont pas accès à l'Internet pour postuler, c'est déjà ça la réponse.
Okay.
Mettre les bureaux à l'intérieur, c'est pour faciliter à ce que ceux-là qui n'ont pas la chance de postuler en ligne puissent déposer leur candidature. Voilà, globalement, je crois que j'ai ramassé...
Avant de conclure, monsieur Jean-Claude Kitima, on va prendre les derniers groupes, les tout derniers. Yannick Kankolong, qui nous appelle depuis la province du Kassai Oriental. Yannick, bonjour et bienvenue. Vous avez déjà la parole.
Bonjour, Jean-Marc Matoki. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, gardez la parole.
Oui, j'aimerais m'intéresser à notre invité du jour pour lui demander, du moins si la question a été déjà posée, parce que je vous ai reçu en cours de l'émission. Notre invité peut nous dire quelle date on va démarrer cette opération. Deuxième question, pourquoi l'ONIP n'a pas voulu maîtriser ou soit prendre les mêmes personnes qui avaient travaillé avec la CENI? Et puis, la dernière question pour terminer, est-ce que depuis que le président a pris sa carte d'identité, si j'ai une bonne mémoire, on compte à peu près quelques années. Maintenant, quel obstacle qui bloque pour ouvrir cette opération de l'ONIP? Merci beaucoup.
Merci Yannick, c'est donc avec votre question que nous allons clôturer ces tours des tables pour laisser encore l'opportunité à notre invité, monsieur Jean-Claude Kitima, responsable financier chez Caritas RDC, de répondre et conclure l'émission.
Merci beaucoup monsieur Jean-Marc. Je commence par répondre à la dernière question. La date, elle sera définie parce qu'il faut avouer qu'il y a des processus. Il y a le processus de recrutement en ligne qui a été lancé et le processus de recrutement physique qui concerne les territoires sera aussi bientôt lancé et l'autorité habilitant de communiquer la date pourrait communiquer la date et Caritas est déjà disponible pour démarrer la réception dans les entités qui lui ont été confiées. Il y a la question de notre collègue, de notre auditeur de Mosengo de Mahagi, que je n'avais pas répondu. Il parlait de garantir les paiements parce qu'il a connu des retards avec Caritas dans une distribution en Ituri. Sauf erreur de ma part, il y a au moins plus de 10 ans que la Caritas n'a pas distribué les moustiquaires parce qu'il a parlé d'une distribution des moustiquaires en Ituri. On n'a jamais distribué les moustiquaires, mais également, il faut le faire comprendre que aujourd'hui, les contrats sont des contrats liés par performance. si on rémunère une partie initiale, je donne l'exemple, si le contrat dit que vous avez 40-60% au démarrage des activités, et les 40% vous ne l'aurez qu'après validation de vos livrables, donc il faut prendre son temps d'attendre la validation de ces livrables pour être payé. C'est là qu'il n'a pas compris pourquoi ça a pris du temps. Mais je crois que la Caritas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a pas d'arriéré avec les agents qui ont été commis au suivi des distributions des moustiquaires. Il y a des questions de notre ami, des favoritismes et des recommandations, tout le monde a dit. Bon, je crois l'avoir répondu encore avant, Caritas ne recrute pas. Ça veut dire que Caritas est un support de l'UNFPA pour couvrir les zones qui sont difficilement accessibles afin de récolter les candidatures et de les amener. Et voilà pourquoi les salles seront grandement ouvertes pour que tout celui qui aura sa candidature, répondant aux critères ou non, on ne rejette pas. Nous sommes les agents de réception. Ça veut dire que vous ayez un bon dossier ou pas, nous allons réceptionner les candidatures et nous allons les acheminer à qui des droits pour faire l'analyse et la sélection des bénéficiaires. Voilà globalement comment je peux garantir aux auditeurs que ça sera transparent, mais aussi les garantir que la Caritas, elle est partout en République démocratique du Congo. Nous avons au niveau des diocèses, comme on l'a dit dans un auditeur, nous avons au niveau des paroisses et nous avons au niveau des cellules communautaires des bases. Donc nous avons plus de 10 000 bureaux dans ces pays. Et je pense qu'avec cette capillarité, nous sommes d'une très grande importance pour aider les BSR à avoir le maximum de candidatures pour la cartographie dans cette activité.
Donc on va dire que les dates ne sont pas encore fixées pour la phase de recrutement
physique.
Pour
La phase de recrutement physique, les dates ne sont pas encore fixées. Du moment venu, on va fixer ces dates et les dates seront promulguées. Et ce qu'il faut dire que cette procédure aussi prendra 14 jours comme celle des recrutements en ligne. Nous aurons ces bureaux 14 jours dans le terrain et qui s'ouvriront de 9h à 15h30. Et tout le monde.
Là, ça va se passer dans
les territoires,
145 territoires
du pays. Mais au-delà de ça, le BSR a aussi d'autres partenaires qui vont descendre dans les milieux les plus reculés pour récolter d'autres candidatures et les acheminer vers les chefs-lieux des territoires où la Caritas va centraliser pour amener.
Donc, c'est une vaste opération.
C'est une très grande opération. Voilà pourquoi je réponds à la question de plusieurs partenaires qu'on a dit. Il y a plusieurs intervenants parce que vous comprendrez que c'est une très grande activité qui demande l'appui de tout le monde. Merci.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Kitima, responsable financier chez Caritas RDC. Merci d'avoir prêté attention, répondu aux différentes préoccupations de nos auditeurs et internautes. Parole aux auditeurs, votre magazine a abordé aujourd'hui un sujet sur les processus des dépôts des candidatures physiques qui s'annoncent les prochains jours. C'est dans les cadres du recensement, on va dire, le recensement qui va intervenir pour sa deuxième phase, 42 ans après le premier. Et c'est donc le ministère du Plan, à travers l'Institut National de la Statistique et le Bureau Central du Recensement, qui s'organise les recrutements des agents pour la carte censitaire du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Merci à toute l'équipe qui a coproduit ces magazines, Patrick Kiasongwa, à la mise en onde de Nancy Atambo, à la réalisation Esther Mambote pour les lives. Je suis Jean-Marc Matoua qui m'offelé les 10 janots. Au nom de toute l'équipe, on vous dit merci et surtout merci de continuer à poursuivre ces débats sur nos plateformes digitales. Merci de faire confiance à cette radio qui vous appartient. À la prochaine pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs.